France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
En 1980, se tenait à Berlin-Ouest une rétrospective Robert Rauschenberg, dont l'importance imposait alors à Jean Dève de consacrer, dans les nuits magnétiques d'Alain Weinstein, une série de 5 émissions aux pionniers du pop art et à la rencontre de son œuvre avec la ville, où se sont écrits quelques-uns des chapitres les plus sombres de l'histoire du XXe siècle. Une ville qui devait attendre 10 années encore pour que s'effondre le mur qui la coupait en deux. De cette série au long cours, nous allons entendre le premier épisode. Jean Dève l'ouvrait en compagnie du directeur de la Kunsthalle de Berlin, qui accueillait l'exposition dont il était le commissaire, avant de plonger l'auditeur dans les eaux mêlées du pop art de Rauschenberg et du Berlin du début des années 80, pour une émission dans laquelle on entendait le peintre en conférence de presse la veille du vernissage de cette grande rétrospective. Rauschenberg et Berlin en 1980, l'année où Fassbinder achevait le tournage de sa monumentale adaptation du Berlin Alexanderplatz d'Alfred Döblin et où, jetée par l'Est de l'autre côté du mur, Nina Hagen chantait « African Reggae ». Nuit magnétique, d'un peintre et d'une ville, Rauschenberg, Berlin, première des 5 parties, diffusée le 5 mai 1980 sur France Culture.
Bonsoir.
Alors, l'exposition peut être...
On va peut-être voir les premières œuvres de Rauschenberg, entre autres Canyon.
Oui.
Voilà, je crois qu'il y a une toile très importante de Rauschenberg.
Oui, The Kite.
63.
Oui, c'est une pièce qui lui a fait à le temps de guerre vietnamienne. Et on peut voir
un aigle,
oui.
Qui domine un hélicoptère.
Oui, un hélicoptère. Et il y a là-bas une démonstration avec des fans attrapent.
Manifestation.
Une manifestation en Amérique. Alors, c'est une pièce que veut dire que Rauschenberg était contre la guerre en Vietnam et les attaques des Américains.
C'était pourtant un ami personnel du président Kennedy.
Oui, alors lui a fait beaucoup de silk screens with, avec le président Kennedy. Il y a une à l'escalier. Oui.
J'aime beaucoup cela, c'est Odalisque.
Oui, c'est Odalisque, cette pièce est au Muséum Ludwig en Cologne. Et on peut voir comment ça...
On va peut-être tourner autour.
Oui. Alors, on peut voir la, une caisse avec une lumière et là-haut, une, comment on dit ça?
Un coq.
Ah bon, mon français n'est pas si bon.
Un paillé.
Oui, oui. Alors, c'est, il y a des différentes...
Papier collé.
Oui,
j'ai vu entre autres la scène de Léonard de Vinci.
Oui, oui. Avec des femmes et des choses de l'art aussi. Alors, l'odalisque, c'est une pièce, que veut dire? Qu'est-ce que vous, votre interprétation? Alors, c'est l'homme, hein?
Le coq, c'est l'homme.
Oui. Et les femmes. Alors, c'est difficile en français pour moi de faire la.
Mais la caisse est sur un pieu qui empale un coussin.
Oui. Oui, alors c'est une association à un lit, n'est-ce pas? Et sur le lit, il y a une pile, comment ça s'appelle, une soile, avec la caisse, avec la lumière, et le coq là dehors.
C'est de 55.
Oui.
Mais l'oreiller revient assez souvent dans le travail de Rauschenberg.
Lesquels?
L'oreiller.
L'oreiller, c'est ce que je pense. Ça. Ah ça, yeah. Alors lui a fait un objet bête qu'on peut voir après, qui est très important aussi, qui est l'exposition.
Nous sommes en 1943. Quelques peintres américains, parmi lesquels Pollock, De Kooning, Rothko, Motherwell, ayant en commun le goût de la violence, du geste rapide, même contrôlé, ce qu'on appellera plus tard l'action painting, ayant aussi le goût d'étoiles immenses, la primauté étant donnée à l'inconscient et à l'écriture automatique. Ces peintres donc marquent la naissance d'un art national, en rupture avec l'héritage européen. Nous sommes en 1943, date de la première exposition de Pollock. Bien. Dès 1955, officiellement, deux sortes de réactions naissent contre l'action painting. L'une préconise un retour à l'abstraction rigoureuse et sans lyrisme. Barnett Newman et le jeune Elworth Skelly sont ces pionniers qui annoncent le succès des structures primaires auxquelles viendront s'ajouter Robert Morris, Frank Stella, Kenneth Nolan et d'autres. D'autres réactions préconisent le retour de la figuration. Rauschenberg emploie des objets comme le lit, le pneu. Jasper Jones représente des drapeaux ou des chiffres. Tous deux font figure de père du pop art, mouvement typiquement new-yorkais et qui tourne radicalement le dos à la peinture. Ils sont à la fois les censeurs et les laudateurs de la société de consommation américaine. Viendront alors Andy Warhol, James Rosenquist, Oldenburg. Ils empruntent leur technique à la photographie, aux bandes dessinées, aux affiches de cinéma. Nous sommes, répétons-le, en 1955. Il y a 25 ans de cela. Dans la Kunsthalle de Berlin, en compagnie de Christine Gerber, Jens Jensen et le professeur Rucka Berl.
Ah, das ist ganz hinten erst. Sollen wir das zuerst machen? Und war tout de suite al Bett? Voilà,
peut-être qu'on parle de canyon quand même. Oui. Oui.
Oh mon français n'est pas si spécialisé pour trouver les mots, n'est-ce pas? Non. Alors, Kenyon est très important au tableau parce qu'il est un combined painting.
Peut-être qu'on pourrait expliquer ce que c'est qu'une
combined... Oui, un combined painting est une combination de différents éléments. Il y a une toile avec des peintures, avec des objets, avec un aigle.
Un aigle.
Et avec des... Comment on dit ça?
Un volet.
Un volet, oui.
Métallique.
Alors, oui, oui. Alors, Kenyon, c'est une... mon français n'est pas si bon. Alors, une schlucht en Amérique, n'est-ce pas?
Oui.
Oui. Et qu'est-ce que peut-on dire, c'est ça?
Que fait l'aigle, là? L'aigle, c'est l'Amérique?
Das mir jetzt etwas zu simple. C'est trop simple pour moi, maintenant. Oui, alors, c'est ça. C'est vous qui pouvez dire que l'aigle est sur une boîte. Et lui,
il sort de la boîte.
Il sort de la boîte et il commence à voler sur un paysage comme ça. Bon. Alors, c'est les tableaux ou les combined paintings de Rauschenberg sont souvent très associatifs. On a des éléments qui sont combinés un contre l'autre, qui a une certaine une bedeutung, qui donne une information.
Bon, on va revenir à cette toile qui est très importante dans le travail de Rauschenberg, Kenyon. Il y a donc un bâton au bout duquel se trouve une sorte de sac.
Oui. Oui. Alors, c'est aussi un part qui vient à l'espace, n'est-ce pas? C'est avant le tableau. Et alors, moi, j'ai une association...
Sous la toile.
Sous la toile, oui, oui. Et devant. Hein? Et moi, j'ai une association de... Alors, il y a la boîte avec l'aigle. Et c'est une pièce comme comme un dépôt pour des choses pour l'aigle, n'est-ce pas? Qui est assemblée. La oui. Signification exacte, je ne sais pas.
Mais tout à l'heure, nous parlions de l'esthétique de Rauschenberg, oui, oui. Très européenne, disiez-vous.
Oui, oui. Alors, the contents, what is this? Inhalt. Was ist das? Qu'est-ce que lui veut dire? C'est une chose très américaine. Lui est très près de la réalité en Amérique, et lui porte toujours dans ses tableaux des éléments de la réalité directement.
De l'actualité.
De l'actualité et des pièces trouvées comme une pièce de Coca-Cola ou quelque chose comme ça, lui porte tout de suite dans les tableaux. Alors, ma esthétique comme composition et les couleurs, c'est absolument européenne. Alors, c'est une très grande culture. Lui a vu les tableaux, les sculptures, etc., de l'art de l'Europe, en Amérique, en Europe. Lui était aussi à Paris, lui était aussi voyagé en Europe. Et par exemple, la composition est très fine et la composition est classique.
J'ai l'impression qu'il travaille énormément, ces toiles.
Oui. Alors,
j'ai vu par exemple le projet de l'affiche.
Oui, oui.
C'est déjà un petit chef-d'œuvre.
Oui. Alors lui a fait une affiche pour nous ici à Berlin. Alors c'est formidable comme lui a fait quelques jours. Alors lui est absolument fraîche. C'est bon français. Alors lui est on the stage.
Hein? Elle était faite ici, à Berlin?
Non, c'est faite en Amérique.
Robert Rauschenberg naît à Port Arthur, Texas, en 1925. Il vient à Paris en 1947, étudie le paysage urbain à l'Académie Julian. 1948, il rentre aux États-Unis où il travaille sous la direction de Joseph Albers, au Black Mountain College. Le plus grand professeur que j'ai jamais eu, dira-t-il. 1952-1953, voyage en Europe, Espagne, Italie et en Afrique du Nord. Expose à la galerie de l'Obélisque à Rome et à la galerie d'art contemporain à Florence. Des armoires contenant des assemblages d'objets fétiches faits en Afrique du Nord. Ce sont les précurseurs immédiats de ces combined paintings. Un critique d'art lui suggère à Florence de jeter ses œuvres dans l'Arnault, ce qu'il fait. Il rentre à New York. Malgré son admiration pour de Kooning, il se dégage de l'expressionnisme abstrait dans sa forme, spécifiquement américaine, d'action painting. Je ne veux pas une peinture qui soit seulement l'expression de ma personnalité, dit-il. À cette époque, il subit surtout l'influence des danseurs et des musiciens, Earl Brown, John Cage, qui compare les All White peintures à ses compositions de silence. En septembre, il expose à la Stable Gallery des peintures All White et des peintures All Black. Je voudrais montrer qu'une peinture pouvait ne pas attirer l'attention sur elle-même. Succès de scandale. J'ai perdu beaucoup d'amis avec cette exposition. Beaucoup de gens pensaient que c'était immoral. Rien ne fut vendu et j'ai dû ôter le livre d'entrée tant il y avait d'injures. En 1954-1955, Rauschenberg expose ses toiles rouges à New York. Il réalise des décors et costumes pour la compagnie de danse Merce Cunningham. Avec Jasper Jones, il fait des étalages chez Tiffany. En 1958, Leo Castelli devient son marchand à New York. Rauschenberg expose chez lui des combined paintings. 1959, exposition à Rome, à Cassel, Documenta 2, à New York, à Paris. Première biennale de Paris et exposition internationale du surréalisme à la galerie Daniel Cordier. 1960, expose en décembre les 34 illustrations de l'enfer de Dante chez Leo Castelli, acquises pour le Muséum d'art moderne de New York. Dès lors, le changement survient, radical, et s'accentue. Parce que Rauschenberg, alors que l'expressionnisme abstrait triomphe, propose de faire du plan du tableau une surface de travail. Le haut et le bas sont aussi subtilement confondus que l'espace positif-négatif ou l'opposition image-fond. Il s'intéresse à la matérialité des plans et utilise du papier journal pour préparer ses toiles ou pour dynamiser le fond, selon ses propres termes. La première touche du pinceau étant déposée sur une trame grise de mots. Avec le temps, les énormes canulars du jeune Rauschenberg acquièrent une cohérence. Dans les années 50, il est invité à participer à une exposition ayant pour thème nostalgique la nature dans l'art. L'envoi de Rauschenberg consiste en un carré de gazon frais, maintenu par du grillage à poulailler, placé dans une boîte. Rauschenberg se rend régulièrement à l'exposition pour arroser l'œuvre. Lorsqu'il gomme un dessin de Kooning en l'exposant sous le titre Dessin de Kooning effacé par Robert Rauschenberg, il accomplit davantage qu'un geste à multiples implications psychologiques. les peintures réalisées vers la fin des années 50, intérieur rouge, canyon, trophée, allégorie, incorporent toutes sortes d'éléments. Un oreiller suspendu horizontalement depuis le bas du cadre, canyon, une échelle partant du sol et insérée entre les panneaux peints qui composent le tableau, winter pool, une chaise posée contre un mur mais prise dans la toile qui se trouve derrière, pilgrim, accroché au mur, les tableaux ne s'en réfèrent pas moins à des plans horizontaux sur lesquels on marche ou on s'assied, on travaille ou on dort. Au cours de la conférence de presse que Robert Rauschenberg a donnée à Berlin la veille du vernissage, beaucoup de questions, entre autres à propos de la pop culture.
I was actually through with the pop culture before the pop culture defined itself. What was considered the beginning of pop art in my work was done between 15 and 20 years before there was such a thing as pop art. And by then I was considered half a dozen other things.
J'avais déjà fini avec la culture pop avant qu'il y ait une définition de la culture pop. Je veux dire que ce qui a été considéré comme le début du pop art dans mes travaux a été effectué 15 ou 20 ans avant qu'il y ait une chose comme le pop art. Et après, j'ai fait bien d'autres choses.
Do you think your kind of art making, your kind of painting, has diminished the gap between art and life?
Considérez-vous que votre façon de faire l'art, que votre peinture, ait aboli la marge qui existe entre l'art et la vie?
I think the gap is really filled in. There's been so many conceptual attitudes that is at the time. When I made that statement about the gap between art and life, the separation between the two was so exaggerated. But since then,
je crois effectivement que j'ai aboli la marge. Il y avait tant d'additifs conceptionnels à l'époque où j'ai constaté cette marge entre l'art et la vie. Cette opération entre les deux a été tellement exagérée.
I think that the art world has both gotten more frantic, but it's also relaxed more, so that that the hierarchy of what exactly is art is a lot less certain. It's very common now for a painter to be just as involved in video and dance and theater and sound as it was uncommon at the time that I said that. Because when I said that, made that statement, the professional distinctions were also exaggerated.
Je pense que depuis le monde de l'art est devenu de plus en plus fou, mais aussi plus décontracté, de telle façon que l'hiérarchie dans le domaine de l'art est beaucoup moins certaine. Il est beaucoup plus facile pour un peintre de dire aujourd'hui ceci est contenu dans la vidéo ou dans la danse ou dans le théâtre ou dans le son, tandis qu'il était beaucoup plus difficile de présenter les choses de cette façon à l'époque où je l'ai dit, parce qu'au moment où j'ai fait ces constatations, les distinctions professionnelles aussi étaient exagérées.
What's about the gap between madness and normalness? Is there a gap or can one now say that madness and normal life mingle together?
Quant à la marge entre la folie et ce qui est considéré comme normal, y a-t-il une marge entre la folie et la vie normale, ou peut-on dire que la folie et la vie normale vont ensemble?
They're compatible now. They've always been very close. I used to work in a mental hospital, and I was always a little disappointed at the point where all of the insanity was removed from someone and they became normal because they became normal bores.
Ils sont comparables. Les deux ont toujours été très proches. J'ai travaillé dans un hôpital pour malades mentaux et j'étais un peu déconcertée parce que toute insanité était tenue à l'écart de quelqu'un et les gens sont devenus normaux parce qu'ils sont devenus des gars normaux.
Do you feel nowadays as the grandfather of pop culture or how do you feel now?
On bad days, I feel like the grandfather of everything, or early in the morning.
Considérez-vous aujourd'hui comme le grand-père de l'art pop, ou comment vous sentez-vous? Dans les mauvais jours, je me sens grand-père dans tous les domaines. Par exemple, très tôt le matin.
Alors lui a changé. Quand on commence avec l'exposition ici à Berlin, est fait contre la chronologie. On commence avec les récentes œuvres et la fin de l'exposition sur les œuvres plus vieux.
On s'enfonce dans le
oui,
temps.
Oui, oui. Alors peut-être qu'on peut passer à l'ordre exact. Mm-hmm. Et l'ordre exact, c'est la chronologie. Alors il faut commencer avec les tableaux blancs ou le tableau noir.
Qu'est-ce que vous pensez des premières toiles de Rauschenberg?
Ah bon, alors...
C'est un curieux départ.
Oui. Alors, lui commence avec interprétation, un travail avec ses parents esthétiques, n'est-ce pas? C'est de Kooning, et c'est aussi Albers.
Il y a un hommage là-bas à de Kooning.
Oui, oui, alors, Erasing Kooning. Oui, oui. Alors, par exemple, il a, lui a pris une... esquisse de Kooning. De Kooning, c'est ça. Elle lui a demandé, elle lui a erasé tous les dessins. Oui, oui. Tous les signes de Kooning. Alors maintenant, c'est une pièce blanche avec des petites pièces qui sont encore sur le papier. Alors, c'est une libération de Kooning à soi-même. Et après ça, il fait aussi des choses qui sont faites dans une quasi presque comme un happening. Alors, lui a fait avec John Cage, avec une Ford, une automobile, coloré le pneu. Et après ça, lui était sur une longue pièce de papier. Il a fait une tourne. Alors, on peut voir l'objet. Qu'ils ont fait. Alors, c'est un élément de mouvement sur une pièce de papier, un objet d'art qui porte aussi les signes de la vie.
Alors là, nous sommes devant la fameuse toile blanche de 51.
Oui, alors il y a... Oui, alors il n'est rien que blanc. Et la seule chose est qu'on peut voir the shadow of a person.
L'ombre
du passant. De passant. Alors, il y a aussi une chose parallèle. On a fait un concert. Le pianiste vient sur le stage et ne joue pas. Et on sent le publicum, le public, et rien plus. Alors, c'est le tableau blanc aussi. C'est une chose comme ça. Thank you. exposition, il y a quelques très belles pièces qui sont des séries que lui a fait en Afrique. Il se fait des combinations. Comment on dit en français?
Décollage.
Décollage. Oui, décollage. Qui sont très.
Qui représentent des jambes, des pieds.
Oui. Mon français n'est pas si bon. Alors.
C'est-à-dire qu'au lieu d'étudier l'anatomie d'un pied, Rauschenberg a préféré avoir recours au collage.
Oui. Il y a une pièce ici qui est très importante aussi, qui est des qui s'appelle femme, figure d'une femme qui est faite avec. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est une monotypie. Lui a fait quelques pièces. Monotypie. Oui, il est fait avec lumière. C'est avant Yves Klein.
49.
Oui.
Comment il se fait alors? Il a projeté le.
Oui, il est fait avec une. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est sur des mots spéciaux. Business gemacht. Mit einem Höhensonne, sagt man bei uns. Avec la lumière comme le soleil, vous savez, comme bronzé.
Ah, oui.
Oui, avec ces lumières, il est fait. Sur papier. Alors, il y a les bêtes. Hein?
Bon, c'est la première grande toile de Rauschenberg. Hein?
Oui. Alors, c'est son lit qui est combiné avec des couleurs. Lui a fait la peinture sur son lit. Alors, c'est une pièce quand on a vu la première fois, était très choquée. Das muss man einfach sehen jetzt, non? Alors, il faut voir.
Un oreiller. Et...
Oui. Alors, je ne sais pas qu'à la télévision, on peut voir. Comment il est spatial, n'est-ce pas? Comment il est così. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est la coloration et aussi le lit qui reste encore.
Bed 55.
Voilà. Il y a sûrement quelqu'un qui a dormi dedans avant d'être peinture.
plusieurs ans. On a bien fêté là-dedans, hein? Ça se voit tout de suite.
Il n'y a qu'un oreiller. Ce n'est pas l'oreiller qui fait le lit.
Non, mais peut-être on l'a mis des pieds au-dessus. C'est l'oreiller.
C'est curieux quand même pour un peintre de prendre son lit et de le couvrir de couleurs.
Oui, pour un,
pour
un français, pour un européen, c'est curieux. Parce que pour, je dis, la limite de vie privée n'existait pas pour quelqu'un.
Et d'en faire une toile malgré tout.
Oui.
Enfin, le lit est sur le mur.
Oui.
Il est cloué.
C'est vrai. Ça, je trouve, en Europe, plus on sait du passé ou de ce qui a été déjà fait, ça pèse terriblement. Ça pèse pour... ça prend la liberté d'en faire. C'est vrai.
Bon, au moins, c'est plus un lit. C'est un tableau, maintenant. On ne peut plus l'appeler le lit.
Ils ont pu avoir une si grande production parce qu'ils ont vraiment fait avec n'importe quoi. Quelqu'un a jeté une chaussure, on s'est déshabillé, alors ils l'ont collé dessus. Ils ont exposé. Je crois, sinon, si quelqu'un se met tous les jours 8 heures à peindre seulement, la production ne sera jamais aussi grande.
On est très loin du triptyque blanc.
Oui. Alors, dès sa libération, ça va tout de suite, ça va très rapidement, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qui l'a libéré?
Alors, vous comprenez, à le temps, quand nous avons vu la première fois Rauschenberg en Europe, quelques historiens d'art qui avons l'idée que ça vient de Cézanne, le cubisme, et après la peinture abstraite, etc., les encadres. Alors lui était absolument choqué par une peinture qui porte si fort des pièces de la réalité dans la peinture. Alors c'était presque comme une révolution dans l'art. Et c'est Zibet, était une des pièces qui était très fort. Alors à Spoleto, on a tourné les pièces dehors de l'exposition.
Il y a déjà la présence des voiles.
Oui, oui. Alors,
on va retrouver 20 ans plus tard.
Oui, oui. Minouche, c'est une pièce pour une performance dance. It's for the stage.
Cette toile ressemble beaucoup à...
Choix. C'est grand, ça?
Oui.
Oui. Choix. On ne peut pas traduire, c'est comme Halo ou comme... il prend souvent des titres Amérique qu'on ne peut pas traduire. Ils sont des mots spéciaux. Alors, c'est une très ancienne pièce aussi. Il y a des... éléments qu'on a fait après un pattern art. It's a very early piece with pattern art elements in the painting.
Bon. Peut-être qu'on va faire parler de cette œuvre là que j'aime beaucoup. Pourquoi
vous voyez? Oui, mais il est très difficile de faire ça. Alors il faut plus parler sur les objets pour la radio. Alors cet objet empire. Alors, c'est un peu ironique sur l'empire, l'impérialisme. C'est une pièce avec une pièce une bicyclette avec une boîte sur la bicyclette avec une... c'est très difficile.
Un morceau de bois.
Oui, oui, oui. Et...
qui traîne une brique.
Une brique, oui.
Relevée par une chaîne.
Oui, oui. Alors, c'est une... comment on peut dire? La combinaison des objets et la composition veut dire associativement une ironique critique à l'impérialisme. Comme ça. Mais c'est très ironique, c'est très fine. C'est pas si direct. Rauschenberg est un artiste qui est à la réalité, mais pas si direct. Mais c'est vous que vous
il,
vous,
il,
vous,
la,
vous,
il la transforme.
Transformer, oui, oui.
En la combinant.
Voilà, oui, oui.
Bon, c'est une solution simple. Fallait y penser, de ramasser les choses et de les combiner.
C'est pas simple du tout parce que il a 100 100 gens qui rassemblent les mêmes choses, qui les visent ensemble, mais ça n'a aucun effet. Ça n'a vraiment aucun effet. Il y a un qui met des choses comme ça dans cette combinaison surprenante. Surprenante. Alors, ça devient l'art. C'est ça, le vieux mystère.
Et l'art ici, c'est quoi ?
Là, pardon ?
L'art. L'art de Rauschenberg. Qu'est-ce qu'il raconte, en fait ?
Bon, il est un...
Il y a une
raconte des histoires, mais des histoires de sa propre vie. Et ça, moi, j'ose pas...
Red Rock. Red Rock,
c'est sa propre vie, ça ? Red Rock.
Red Rock, comment s'appelle Red Rock en français ? Pierre Rouge. Ça n'a rien à voir avec...
En voyant cette exposition ici, on voit tout de suite pourquoi beaucoup des artistes qui visitent les États-Unis commencent à changer tout à fait leur style. Parce que tu les vois et c'est quelque chose que tu as expecté, que tu voulais voir dans la vie aussi, mais ce n'était pas possible dans... avec les vieux cages des idées qu'il y a ici en Europe. Des vieux... On peut dire ça, des structures...
Ce n'est pas un hasard, selon toi, si Rauschenberg est américain ? Parce que Rauschenberg aurait pu être européen.
Non. Non. Même si je dis...
Pourquoi ?
Je crois qu'on n'a pas cette liberté en Europe.
Puis il y a aussi le souffle d'une épopée. C'est assez épique.
Je ne sais pas qu'est-ce que c'est.
Épique.
Épiche. Épiche, un épos.
Il a continué dans son style.
Ça va même dans beaucoup de directions.
Oui, il a beaucoup travaillé, beaucoup insisté sur les mêmes thèmes. Et pour ça, ça devient très massif.
Alors, sur Pilgrim from Pilgrim de 60, oui. C'est un tableau, l'huile sur toile, avec... des très différenciées couleurs grises avec des blancs, avec des bleus et avec ocre et rouge. Et devant le tableau, il y a une chaise, une vieille chaise, comme une chaise italienne, qui est colorée blanc, brune et jaune. Alors, ça s'appelle Pilgrim. Qu'est-ce que veut dire ? Alors, je pense qu'on a l'association, quelqu'un. Et devant la chaise, devant le tableau. Alors, comme ça, il y a une association.
Thank you.
veux parler sur l'organisation de l'exposition, vous m'avez demandé. Alors l'exposition est préparée. Le premier debout quand on a vu Rauschenberg ici en Europe, la première fois, c'est début des 62-63. Alors moi-même, je suis à préparation de cette exposition. Elle a commencé en 64 et toutes les années, je suis venu à Paris à Madame Zonamt, à la Galerie Zonamt, et on a parlé à quand on peut faire l'exposition. Alors, il y a une très grande exposition en Amérique.
À Washington.
Et ce n'était pas possible de porter en Allemagne. Et il était aussi pas possible de porter les très importantes expositions qui étaient à Whitechapel Gallery in London, 1964. Et maintenant, on a fait cette exposition spécialement pour l'Europe et on a commencé à Berlin. Alors,
pourquoi Berlin?
Pourquoi Berlin? Parce que nous sommes les plus vieux qui avons travaillé sur ça. Je crois que nous avons longtemps parlé de cette exposition.
Les plus vieux quoi? Partisans, admirateurs? Partisans,
admirateurs, oui. Et l'organisation des objets, c'était Madame Müller-Haug de la Kunsthalle ici. Elle a assemblé toutes les choses. Alors l'exposition est énorme parce qu'il est très difficile de prêter les choses, d'avoir les choses, parce que les prêteurs ne voulaient pas que les pièces très fragiles mouvent dehors de la maison ou d'un musée. Alors, je crois que c'est pour un long temps, la dernière fois, qu'on peut avoir si beaucoup d'importantes pièces de Rauschenberg ensemble.
Elle vous semble complète? Ou selon vous, il y a des...
Oui, alors, il y a quelques pièces qui ne sont pas dans l'exposition, par exemple le monogramme, qui est très important. Alors, Pont de Sultan a acheté, quand lui était à le musée, Moderna Museet in Stockholm, c'est une chèvre avec, un Reifen?
Un pneu.
Mmh. Cette pièce n'est pas à Berlin parce qu'il est trop fragile. La chèvre se perd sa cheveux. Mais on a fait une reproduction dans le catalogue. Et alors, je crois que c'est l'optimum qui est possible. Il y a encore deux pièces dans le dépôt.
Ici à Berlin?
Oui. Parce que Rauschenberg a fait l'exposition soi-même. Elle lui a dit, ah bon, ça suffit comme ça, c'est bon, l'espace.
C'est lui qui a fait l'accrochage?
Oui, c'est lui. Oui. Elle lui a tout tourné. Nous avons voulu faire une exposition qui est un peu plus facile à comprendre, avec une pièce avec l'autre, une logique esthétique. Mais lui a dit, non, on fait le contraire. On tourne l'exposition, on commence avec les récentes œuvres. Alors, c'est formidable. L'exposition est très fraîche. Comme ça, est très, très, très intéressant. Alors, c'est un peu plus difficile pour le public.
Quelles sont les deux œuvres que vous avez dans vos réserves?
Il y a une pièce, une silk screen, short stop, par exemple, qui est très important aussi.
Thank you.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans le travail de Rauschenberg?
Oui. Voilà. Alors, pour moi, la première chose, c'est l'esthétique, la innovation. Et j'adore comme lui fait la composition et son sens pour la couleur. Alors, il est très seldom, il n'est pas si souvent que les artistes ou le public aussi, les artistes ont un feeling, un sens pour la couleur, pour la proportion des couleurs. Alors, comme grand est une pièce de couleur. Alors, Matisse, par exemple, est un maître des propositions des pièces de couleur un contre l'autre. Et Rauschenberg a une feeling, un sens pour la couleur, la combinaison des couleurs. C'est à un chemin, une couleur à l'autre, les contrastes, etc. Et aussi les dimensions. Alors, comme grand est une pièce rouge ou une pièce gris sur une toile.
Et il a mis au point une technique qui s'appelle le transfert.
Oui. Alors, le transfert, on ne parle plus de qu'on est là-bas. Alors, par exemple, c'est ici, c'est Hymnal. C'est une toile avec un tapis. Et il y a un livre, c'est le livre téléphonique de San Francisco, quelque chose comme ça. Alors, lui a combiné ça avec des très différenciées couleurs. Et c'est aussi une signification qui donne un sens.
Mais beaucoup de toiles appartiennent à Mme Sonnabend.
Alors, il y a beaucoup. Oui. Aussi des Rauschenberg soi-même et des musées Amérique, des musées de, par exemple, Copenhague a donné, et aussi les musées allemands. Et le Centre Pompidou, l'Oracle.
Qui est assez important.
Oui, oui. Bon, alors, voilà le revolver. Le revolver, c'est une pièce mécanique, il y a des différentes. On peut, avec une table, mouver des pièces qui sont en silkscreen also. What is silkscreen? Il y a des photos sur plexiglas blanc et on peut tourner une contre l'autre. On peut voir des différentes combinations qui se mouvent en même temps. Revolver.
Je vois là-bas Crocus.
Ah oui. Alors, Crocus
est...
Oui, oui. Gris. Alors, c'est une six-screen Crocus avec des peintures.
Une sérigraphie.
Une sérigraphie. Ah, la sérigraphie, c'est le fond de mon français, oui. Une sérigraphie. Avec un camion.
Mais où Rauschenberg intervient. Non, ça, par exemple, c'est ajouté à la sérigraphie.
Oui, oui. Il a peinture sur, fait la peinture sur, sur la sérigraphie.
Ça, c'est très beau, ça.
Oui, oui. Alors, je ne peux pas parler sur ça parce que c'est trop difficile. Je ne connais pas le mot.
C'est
vous qui parlez, non ?
We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Just to do
Rauschenberg. Ce qu'il a inventé, par-dessus tout, est une surface picturale qui laisse le monde l'envahir à nouveau. Pas celui de l'homme de la Renaissance, qui regarde par la fenêtre le temps qu'il fait dehors, mais l'univers d'homme qui tourne un bouton pour entendre un message enregistré du genre « Probabilité de précipitation cette nuit, 10%. » Transmis électroniquement depuis quelques cabines aveugles. Le plan du tableau de Rauschenberg est l'équivalent de la conscience plongée dans le cerveau de la ville. Berlin donc, nous y serons précédés de deux guides, Michael Stone et Brigitta Restorff, une jeune éditrice qui nous fait découvrir de la ville ses différentes planéités.
Où est-ce qu'on est ici?
C'est la gare, c'est le plein centre là. Là on arrive au Kurfürstendamm. C'est la canebière de Berlin, ou les Champs-Élysées s'il vous plaît. Alors on n'est pas loin parce que l'atelier de Jens Jens n'est pas loin.
Soll ich dann mal links abbiegen oder?
Ja, ja, wir müssen beim Hotel vorbeifahren. Ja. Wir müssen wahrscheinlich wieder rumfahren etwas, ne? Ja, ja. Là, on longe le Kurfürstendamm et on arrive directement aux anciens quartiers chics. Enfin, il y a toujours des quartiers très chics où il y a des villas splendides. C'était le Grunewald. C'est une petite forêt.
Il est resté intact.
À moitié. Il y a beaucoup de choses ont été détruites, bien sûr, mais il reste toujours des villas splendides. Puis peut-être après, par contrepoids, on ira à Kreuzberg. C'est un quartier presque devenu turc maintenant, c'est presque tout à fait turc, parce qu'il y a énormément de Turcs à Berlin. Attendez, wie viele Turcs haben in Berlin? 50.000?
Ich bin auch einer und...
Ah, das müssen Sie doch wissen!
Also, inoffiziell etwa 150.000.
Ah, c'est parfait, il est turc, le monsieur, alors il le sait. Alors, il y a inofficiel et officiel?
Officiel, so etwa 100.000.
Alors, officiellement, il y a 100 000 Turcs et inofficiellement, il y a à peu près 150 000 Turcs à Berlin. Alors, énormément.
On tourne le dos à ce qu'on appelle la dent creuse.
La dent creuse? À Berlin?
Oui. Vous ne connaissez pas la dent creuse?
Non. c'est, qu'est-ce que c'est? Der Hohle Zahn in Berlin?
C'est cette cathédrale au clocher creux.
Mais c'était là-haut, Gedächtniskirche. Vous ne l'avez pas vue là? Elle était juste. Bon, on va repasser tout à l'heure.
On appelle ça la dent creuse.
Ah oui, c'est l'église du souvenir. C'est ça, elle était en haut. On repasse tout à l'heure. C'est ça. Qui reste toujours en ruine et puis qu'on a reconstruit le clocher à côté. C'est ça. Oui, elle est en haut. Bon, mais ça, bon, vous voyez que là, tout a été refait quand même, ici. Bon, ça, c'est, si vous voulez, c'est le centre de Berlin maintenant. Avant, c'était Unter den Linden, qui se trouve à Berlin-Est. Il faudrait absolument que vous alliez à Berlin-Est. Hein. Mais vous irez avec Jens, pas avec moi, parce que j'ai jamais été à Berlin-Est.
Vous ne voulez pas y aller?
Non. Pas pour des raisons politiques, mais... Puisque je suis devenue berlinoise, je dois demander des visas. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi.
on peut devenir berlinois?
Oui, bien sûr. Enfin, j'ai la première résidence ici à Berlin et la seconde en Allemagne de l'Ouest à Stuttgart. Parce que moi, je suis du sud de l'Allemagne.
Ben, c'est un statut spécial, Berlin.
Oui, parce que... Oui.
Ça n'a rien à voir avec l'Allemagne de l'Ouest.
Formellement, non. Enfin, c'est sous le contrôle des quatre alliés. Et vous avez, en général, officiellement, les habitants de Berlin n'ont pas de passeport. Ils ont une carte d'identité provisoire. Je vous la montrerai tout à l'heure. Je ne l'ai pas sur moi. Alors, c'est un statut très spécial, quoi.
Qui n'a rien de permanent. Ça se renouvelle, une carte d'identité?
Ah oui, bien sûr. Ça se renouvelle comme en Allemagne de l'Ouest aussi. Ça se renouvelle tous les 6 ans, je crois, ou tous les 5 ans, oui. Non, mais c'est-à-dire que puisque Berlin... Oui.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier, cette ville?
De particulier?
Oui. Par rapport à Munich ou à Hambourg ou à d'autres villes d'Allemagne?
Oui, non, mais d'abord, c'est la situation géographique, hein, parce qu'elle est entièrement, si vous voulez, une enclave dans le territoire de la RDA. Si vous regardez une carte, vous êtes entouré de la RDA ici. Alors, pour sortir ou pour rejoindre l'Allemagne de l'Ouest, vous faites au minimum 4 heures de voiture. Le plus proche serait peut-être Hambourg, par exemple. Alors, vous êtes entièrement entouré, quoi. C'est une enclave.
Et est-ce qu'on en souffre?
Il y a des gens qui en souffrent, oui. Il y a des gens qui... Il y a un mot aussi, Mauerkoller, c'est très difficile à traduire. Bon, si vous voulez, après un certain temps, les gens ont un genre de claustrophobie, parce que, bon, vous ne sortez pas comme ça un week-end, enfin, c'est difficile parce qu'il faut toujours faire de la voiture. Alors, bon, il y a des gens qui se sentent vraiment enfermés, mais moi, par exemple, pas du tout. Seulement...
Vous sortez pas, beaucoup
En la main de l'Ouest, moi, personnellement, non. Personnellement, non. Je me déplace très, très peu. Bon, et ça va être la nouvelle Schaubühne. Vous avez entendu parler de ce théâtre, Schaubühne im Hallischen Ufer. Là, ça va être la nouvelle. C'était un très vieux bâtiment. Et on est en train de le reconstruire pour la Schaubühne. C'est toujours le Kurfürstendamm. Vous voyez qu'il est assez long. Alors, tout a été refait, vous voyez.
Ben, tout a été reconstruit, enfin, il ne reste plus de ruines.
Si, à Kreuzberg, vous verrez, par exemple, l'Anhalter Bahnhof, une ancienne gare, vous verrez les ruines là, qui sont restées comme ça.
Et le bunker?
Oui, il y en a aussi, oui, je peux vous les montrer. Palaststraße, par exemple, on a construit des maisons autour parce qu'on n'arrivait pas à le faire sauter. On n'arrivait pas, là, on a construit des maisons autour. Il reste toujours des bunkers, oui, très jolis d'ailleurs.
Non, mais le bunker de Hitler.
Führerbunker, oui, mais il est à l'est. Il est à l'est. Vous pouvez le voir du Potsdamer Platz. Si on monte, vous pouvez le voir.
Comment ça s'est passé, la construction du mur? Ça s'est passé rapidement, non? Du jour au lendemain?
Moi, j'étais pas là à l'époque, hein. Mais ça s'est passé assez rapidement, oui. Du jour au lendemain, pratiquement, oui. Oui. Enfin, ça a été fait. Je crois que le mur a été construit Le mur a été fini dans une ou deux semaines. Oui.
Quelles étaient les réactions de l'époque?
Et on a, bon, évidemment, on a attendu que les Américains réagissent, qu'ils n'ont pas fait, évidemment. Ils n'ont pas réagi du tout et, bon, là, les suites sont connues, quoi. Rien. Tout le monde a attendu ce qui va se passer. Il y a eu des interventions diplomatiques, évidemment, de la part des alliés, mais c'était tout.
On parle encore du mur, ou très peu?
Ah,
ça fait partie du quotidien, ça?
Oui, maintenant. Et vous savez que, bon, depuis que nous avons un gouvernement social-démocrate, il y a eu quand même pas mal d'améliorations dans les échanges, enfin, des habitants de Berlin-Est et enfin de ceux de Berlin-Ouest, parce que Bon, si vous êtes originaire d'Allemagne de l'Ouest, vous pouvez passer avec votre passeport normalement. Il y a deux ou trois passages, je ne sais même pas trop. Et pour les habitants d'Allemagne de l'Est, il faut demander un visa. Il y a un bureau spécial où vous demandez un visa. Et vous attendez deux jours et après vous pouvez passer. Mais il faut toujours, en tant que Berlinois, même pour les Allemands de l'Ouest, il faut être sorti à minuit. Hein. Vous pouvez pas, enfin, pour passer la nuit là-bas, il faut un permis spécial. Non, mais on passe aisément, le transit aussi fonctionne, enfin, c'est pas de problème. Fahren wir jetzt noch am besten ein bisschen da die Königin-Luise-Straße rein, Trabonner Straße, diese Ecke da im Grunewald. Mhm. Ne? Sie wissen, wo ich meine, also irgendwo hier dann so rechts abbiegen.
Hier rechts sind wir,
ne? Können noch ein bisschen weiter vorfahren und dann, ja, irgendwo dann später rechts abbiegen. Mhm. Brauchen darf ich ja bei Ihnen, ne?
Ja, bitte.
Danke. Voilà, wo wir
gleich in die Hagenstraße.
In die?
Hagenstraße.
Ja, die ist gut, da gibt es schöne Häuser. Ja, sehr duftet, gute Idee. Bon, vous voyez là, il reste encore des certaines vieilles maisons. Enfin, tu trouveras. Vous voyez, déjà, c'est. Lorsqu'on arrivera à Kreuzberg, ce sera tout à fait différent. Hein. Ça, c'est l'ancien quartier. Il est toujours le quartier chic, quoi, à Berlin. Et le quartier le plus cher, si vous voulez.
C'est très boisé. Hein.
C'est très quoi, pardon?
C'est boisé, il y a beaucoup d'arbres.
Hein. Ah oui. Ah oui. Ça c'est le Grunewald, hein. Ça c'est avec un lac aussi. Enfin, c'est il y a énormément de verre à Berlin, hein. Énormément.
Il y a le lac, mais ce qui n'est pas très loin d'ici. Où est mort Peter Sandy?
Ah oui, ça Hallensee. Ah, en retournant, je peux vous le montrer.
Il y a aussi la rivière où est morte Rosa Luxembourg.
Oui, c'est l'Antwerpkanal. C'est en allant à Kreuzberg qu'on verra ça. C'est ça.
Vous connaissez l'hôtel Eden?
Oui, je voulais vous en parler justement. Enfin, ça n'existe plus, hein, maintenant. Il y a d'autres trucs dedans, mais je peux vous encore montrer l'endroit. C'est tout près du zoo, d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'il avait de particulier, cet hôtel?
C'est là où on a traîné Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Et on suppose, certains historiens supposent même qu'ils ont été tués là, jetés après dans le canal. Il y a des historiens enfin, qui disent qu'ils ont été terriblement maltraités aussi là-dedans. Et bon, on les a jetés après. C'est dans cet hôtel que ça s'est passé. Voilà, vous voyez des maisons comme ça qui sont quand même plus ou moins restées. Hein. Bon, ça, évidemment, c'est nouveau.
C'est
l'Anti-Kreuzberg. Oui. Il dit c'est l'Anti-Kreuzberg. Non, mais c'est vrai.
Hier wohnent so Leute wie Peter Lorenz und
Alors il dit que surtout les députés du Sénat ou les sénateurs habitent ici, enfin les huiles qui ont assez d'argent pour ça, c'est ça. Non, c'est vrai, parce que c'est un quartier assez cher ici, hein. Enfin le plus cher quoi, avec ces gens.
Vous parlez français?
Très sporadique, oui.
Vous savez où vous êtes ici?
Ah oui, ça doit être le centre d'accueil de Balin ici, oui. Je me rappelle vaguement.
reste, prête pour ça, Michael.
Alors soyons un peu agressifs. Que pense ton ami du mur de Berlin?
Monsieur Stone, was denkst du über die Mauer in Berlin?
De frage.
Quelle question? Moi je traduis. Hein? Quelle question?
Sie war notwendig?
Il était nécessaire.
Sie wird eines Tages von der anderen Seite notwendig sein.
Il sera nécessaire un jour de l'autre côté.
Also ich bin der Meinung, dass der Tag kommen wird, wo man im Westen froh sein wird, dass es die Mauer gibt.
Je suis d'avis qu'un jour dans l'Ouest, on sera content que ce mur existe du côté enfin de l'Ouest.
Das ist Glück, das schon.
Et was heißt das? Qu'est-ce que ça veut dire, Michael?
Okay. In dem Maße, in dem sich die Dinge in der DDR entwickeln.
Dans la mesure où les choses se développent en RDA.
Und in dem Maße, in dem wir immer mehr in Krisen, in Wirtschaftskrisen hineingeraten.
Dans la mesure où nous entrons de plus en plus dans des crises économiques.
Wird für sehr viele Leute das wirtschaftliche Gefälle nicht mehr Ost-West sein, sondern West-Ost.
Pour beaucoup de gens, la descente économique ne sera plus ouest-est, mais est-ouest. Donc l'inversement, c'est l'inverse.
Und das fängt schon ganz langsam an.
Ça commence à se faire sentir, ça commence doucement.
Jeden Monat gehen im Schnitt 380 Familien aus der Bundesrepublik in die DDR.
Il dit que par mois, à peu près 380 familles de la de la RFA vont en RDA pour y habiter.
Leute, die hier arbeitslos sind, die
dann. Les gens qui sont au chômage ici changent de pays pour ils passent à la RDA pour vivre là et pour travailler là.
Et là, vous parlez du mur économique, on pourrait peut-être parler aussi du mur psychique.
Da sprichst du von der Mauer als einer ökonomischen Mauer. Da könntest du aber auch von der Mauer als einer Art von psychischer Mauer sprechen.
Ja, warte mal. Also die Mauer ist natürlich am meisten zu spüren aus Berlin.
Le mur se sent le plus fort à Berlin-Est.
Wenn man weiter weg geht in der DDR.
Si on s'éloigne plus à l'intérieur, vers l'intérieur de la RDA.
Leipzig, Halle, Dresden.
Leipzig, Halle, Dresden.
Spürt man die Mauer nicht.
On n'a plus la notion du mur.
Natürlich ist hier eine große, reiche, lebendige Stadt im Westen.
Bien sûr qu'ici, à Berlin-Est, c'est une ville très riche, très vivante, très vitale, à l'Ouest.
Die für viele Leute im Osten sehr attraktiv ist.
Il y a beaucoup d'attrait pour les gens de Berlin-Est.
Und da ist für die Leute im Osten die Mauer eine Mauer.
Alors pour les gens à Berlin-Est, le mur, c'est vraiment le mur.
Während hier im Westen man das ja eigentlich überhaupt nicht spürt.
Tandis qu'ici à l'Ouest, on ne le sent pas.
Aber wenn man müsste sich eigentlich länger über die Mauer, ist ein großes Thema, man müsste eigentlich länger über die Mauer unterhalten.
Il faudrait parler beaucoup plus longuement du mur, parce que c'est un grand sujet.
Man müsste die Vorgeschichte kennen.
Il faudrait connaître les antécédents à la construction du mur.
Also das zu einer Zeit, als vom Osten, nicht von der DDR, aber von der Sowjetunion, der Versuch unternommen worden war, Deutschland zu neutralisieren.
À une époque où de la part de l'Union soviétique il a existé une tentative de neutraliser l'Allemagne de l'Ouest, also Westdeutschland.
Ganz Deutschland.
Tout l'Allemagne, de neutraliser toute l'Allemagne.
Hat man das im Westen verhindert?
On a empêché cette tentative à l'Ouest.
Unter dem Druck der Amerikaner.
Sous la pression des Américains.
So dass die Spaltung von außen in das Land hineingetragen wurde.
Donc la scission a été apportée de l'extérieur à l'intérieur du pays.
Noch 1954.
Pardon?
Noch 1954.
Encore en 1954.
Kam das letzte große Angebot von Khrushchev.
La dernière grande offre a été faite par Khrushchev.
Der bereit gewesen wäre, die DDR aufzugeben für ein neutrales Deutschland.
Qui aurait été prêt à renoncer à l'existence d'un État de la RDA en faveur d'une Allemagne non divisée mais neutre. Tel que, par exemple, comparable à statut de l'Autriche.
Wurde das im Westen überhaupt nicht diskutiert.
Mais ceci n'a pas été discuté à l'Ouest, c'était indiscutable.
Also wurde 61 die Mauer war eine Art von Notwehr.
Donc en 1961 war das, le mur a été une sorte d'autodéfense vitale de la part de la RDA.
Donc il est toujours question de l'Amérique.
Also geht's immer noch um Amerika. Amerika ist immer im drin mit dem Spiel.
Ja.
Après Rauschenberg.
Oui. Qu'est-ce que tu as dit?
Après Rauschenberg. Nous sommes toujours dans l'Amérique.
Oui. Ça heißt also, Rauschenberg ist immer da, also Amerika ist eben omniprésent.
Ja, ich dis.
L'Amérique est omniprésente, j'ai dit. Non, on peut revenir.
Unfortunately. Unglücklicherweise.
Malheureusement.
Est-ce que monsieur a connu l'Allemagne de l'après-guerre?
Hast du das Nachkriegsdeutsch schon gekannt?
Nein, ich habe nein.
Et de la guerre.
Non, mais de la, aber Krieg, des Kriegsdeutschland.
Ja. Nein. Ich war in Italien, Griechenland.
Wo warst du?
Italien, Griechenland.
Italien, in Grèce. Warst du denn nicht Offizier, englischer Offizier?
Nein, ein ganz einfach Soldat, englischer Soldat. Aber in Italien, Griechenland. Ich wollte nicht nach Deutschland.
Il était soldat anglais en Italie, en Grèce. Il n'a pas voulu aller en Allemagne.
Ich hätte kommen können, ja. Also ich hatte die Möglichkeit.
Il aurait pu venir se faire muter en Allemagne, mais il préfère rester en Italie et en Grèce.
Qu'est-ce que vous pensez de Berlin aujourd'hui?
Was hältst du von heutigen Berlin?
I love it.
Bitte?
I love it.
Bon, ça, I love it, je crois que c'est clair. Je l'aime.
Weil es eine spannungsreiche Stadt ist.
C'est une ville pleine de suspense et de situations conflictuelles positives.
Weil man in die einzige Stadt in der Welt, wo man mit der Untergrundbahn in ein anderes Land fahren kann.
C'est la seule ville au monde où avec le métro tu puisses passer d'un pays à l'autre. Et tu peux Michael, du lebst lieber in Ost-Berlin oder lebst lieber in West-Berlin als in Ost-Berlin? Tu préfères vivre à Berlin-Ouest quand même qu'à Berlin-Est?
Ja.
Oui. Pourquoi? Warum?
Also ein Grund ist der, dass ich das Leben im Westen gewohnt bin. Ich habe mein ganzes Leben lang immer im Westen gewohnt.
Une raison, c'est que moi je suis habitué à la vie à l'Ouest. Il a passé toute sa vie à l'Ouest.
Und man, ich bin zu alt, um mich noch anzupassen.
Je suis trop vieux pour m'adapter à une autre situation.
Ja, ich bin zu alt, um mich noch anzupassen an einer vollkommen neuen Situation.
Trop vieux pour me faire à une situation tout à fait nouvelle et différente.
Außerdem,
quelle est la situation de l'autre côté du mur?
Was ist die Situation auf der anderen Seite der Mauer? Wie ist die Situation?
Ja, okay, werde ich dir sagen.
D'accord,
ich will auf seine Frage antworten.
D'accord.
Als Kommunist hier.
En tant que communiste ici à Berlin-Ouest.
Bin ich bestimmten Beschränkungen unterworfen.
Je suis soumis à certaines restrictions.
Ich bin Journalist.
Je suis journaliste.
Ich schreibe in bürgerlichen Zeitungen.
J'ai écrit dans des journaux bourgeois. Dans les journaux bourgeois, pardon.
Und ich muss sehr acht geben, dass ich nicht zu viel sage.
Et je dois faire très attention de ne pas dire trop.
Dass ich auch die Sprache einhalte, die in solchen Blättern gebraucht wird.
Que je respecte le langage bourgeois habituel.
Und dass, wenn ich meine eigenen Gedanken vermitteln will, ich das indirekt machen muss.
Et si je veux communiquer mes propres pensées, je dois le faire par la voie indirecte.
Aber ich kann das.
Mais je peux le faire.
Weil ich es gewohnt bin.
Parce que j'ai l'habitude de le faire.
Weil ich es mein ganzes Leben lang schon tue.
Parce que j'ai déjà fait ça toute ma vie.
Im Osten könnte ich wahrscheinlich mehr sagen.
À l'Est, je pourrais certainement dire plus.
Als Kommunist.
En tant que communiste.
Aber ich wüsste nicht die Spielregeln.
Mais je ne connaîtrais pas les règles du jeu.
Wie ich mich gegen welche Funktionäre schützen kann, denen das nicht gefällt, was ich schreibe.
Je ne connais pas les règles du jeu, comment me protéger contre certains fonctionnaires, et voilà. Certains mécanismes d'État.
Also darum bin ich wieder hier.
C'est pourquoi je préfère rester ici, vivre ici.
Außerdem verdiene ich hier mehr Geld.
En plus, je gagne plus d'argent ici qu'à l'autre côté.
Vous racontez l'histoire de l'homme de marbre.
Ah, de Vaida. Tu sais ce qu'il a dit, qui est ce man aus Marmor von André Vaida.
Ja.
Oui. Ah, tu as vu ce film?
Ja, natürlich.
Magnifique.
Ja, schöner Film.
Oh là là, grand film.
Außerdem, noch wichtig ist.
Ja, jetzt können wir langsam wieder so. Und dann fahren wir wieder bitte am Halensee vorbei. Und an der Gedächtniskirche. Und dann fahren wir links runter die Litzenburger zum Landwehrkanal, so Richtung Kreuzberg.
L'Axelander Alexanderplatz se trouve en Allemagne de l'Est?
Allemagne de l'Ouest, oui. Ça c'est Berlin-Est maintenant. Et Fassbinder est en train de faire un grand film de sa Berlin-Alexanderplatz. Il est en train de filmer. de tourner un film d'après ce roman. Vous avez entendu parler?
Oui. Vous aimez Fassbinder?
Moi, j'aime beaucoup, oui. Ah, j'aime beaucoup.
Plus que Sieberberg?
On ne peut pas comparer ça. Je crois que Sieberberg est peut-être plus radical. Il est plus fou, il est plus intéressant. Pour moi, il est plus... Oui, il est plus radical dans ce qu'il veut, je crois, dans ce qu'il cherche. C'est un langage cinématographique tout à fait différent, il me semble, non? Vous pensez pas?
Oui, même nouveau.
Oui, c'est ça. Donc, Fassbinder est toujours plus ou moins narratif, quoi, en fait.
Oui.
Enfin, c'est pas péjoratif pour moi.
Il veut plaire.
Aussi,
davantage.
Oui. Oh, je crois qu'il s'en fout finalement un peu, hein, Fassbinder. C'est un personnage très... Oui, ce sont des villas particulières. Il y a aussi une partie de l'université libre ici, dans d'anciens villas qui résident là. Certains instituts, certaines facultés.
Où est-ce qu'on est ici?
On retourne par le Kofosendam et on arrive maintenant à la Dent Creuse, puisque vous voulez la voir. Et après, on passe à l'ancien hôtel Eden et au Landwehr Canal et on va un peu à Kreuzberg. D'accord? Ça vous dit? Vous voulez rentrer, vous voulez...
Le zoo a toujours été au centre de la ville, ou bien c'est...
Non, c'est venu après. Le centre a été Unter den Linden, Alexanderplatz, tout ça. Ça a été le centre de Berlin, avant la guerre. Enfin, jusqu'à... Oui. Ça a été le centre, oui.
Alors, on a fait un autre centre en fonction de l'état, du
on a fait un...
état.
Pardon, on a...
On a fait un nouveau centre en fonction...
Ah oui, non, mais bien sûr, en fonction de la ville divisée, quoi, de la ville partagée, bien sûr. Parce qu'avant, de l'Anhalter Bahnhof, les trains partaient pour l'Est, quoi. Enfin, maintenant, c'était plus possible. Alors, c'était le Bahnhof Zoo, quoi. Mais le Zoo a existé avant aussi, seulement il y a eu deux gares, enfin, l'Anhalter Bahnhof, qui reste en ruine, d'ailleurs. Oui. Mais Anton Eureka, qu'a-t-il a reconstruit pour le Hölderlin au stade olympique? Vous avez dû le voir, non?
Nuit magnétique. D'un peintre et d'une ville, Rauschenberg, Berlin. Première partie. Avec la participation de Robert Rauschenberg, Bärbel Goldbeck, Christine Gerber, Jens Jensen, Brigitta Restorff, le professeur Uka Berl, Michael Stone et Alain Benoît, Eric Damaggio, Dominique Aléo, Pamela Dousseau, Jean Dève. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée le 5 mai 1980 sur France Culture. À suivre.